I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Test 1, 2, 1, 2, très bien. Alors déjà pour commencer, merci à tous et à toutes d'être là. La table ronde, donc, comme on peut voir, c'est vous avez dit convergence des luttes. Je voulais en fait évoquer cette thématique parce que dans nos milieux militants et en fait dans nos vécus en fait de personnes racisées et ou queer, on a souvent cet impératif là de parfois nier nos spécificités pour le bien commun, qui est souvent donc en France la France républicaine, donc la thématique de la race. Et j'avais vraiment envie de parler de cette thématique là. Mais avant tout, j'aimerais déjà que vous vous présentiez chacun et chacune. Et ensuite, je vais pouvoir établir un peu les bases de cette thématique.
Bonjour, moi je m'appelle Miguel, j'ai 20 ans, je suis étudiant en médecine et je suis aussi journaliste au Bondy Blog et sur France Culture, par moments comme ça. Je suis bi aussi, voilà. Je suis bi, voilà. Je dis assez fort.
Ah non, mais pardon, c'était parce qu'on n'entendait pas.
Bonjour, moi je suis Jean-Victor, j'ai aussi 20 ans et je m'intéresse aux luttes queer, racisées et plus particulièrement à donner de la visibilité aux personnes adoptées dans le cadre transracial.
Bonjour, je m'appelle Soum, j'ai 25 ans, je suis militante dans le collectif Déraciné à Lyon.
Donc j'ai évoqué le fait que souvent en France on va privilégier donc la classe dans le programme de lutte comme un impératif qui regrouperait tout le monde, voilà, la lutte ouvrière c'est la chose la plus importante. Et en fait il faut aussi notifier que les luttes ouvrières ont été aveugles face aux spécificités, en fait aux problématiques spécifiques des ouvriers. On l'a vu aussi avec la lutte de mai 68 où en fait les ouvriers racisés n'ont pas été entendus sur leurs problématiques spécifiques. Pardon. On a aussi donc bien évidemment le féminisme blanc civilisationnel qui lui a mis de côté toutes les thématiques liées aux femmes noires, antillaises, immigrées. On a aussi un peu plus récemment, mais même à l'époque aussi, les mouvements LGBT qui ont totalement blanchi et saupoudrer en fait d'un rose capitalisme toutes les luttes, en éludant le côté politique, en faisant le mot fierté un mot en fait valise de fête, de techno et j'en passe. Et en fait, sous ces thématiques-là, il y a une injonction à nous, aux personnes qui sont minoritaires, d'aller vers la majorité. Et en fait, moi, je voulais vraiment me questionner sur qu'est-ce que c'est la convergence des luttes. Et en fait, vous que vous êtes mes invités, j'aimerais savoir ce que ça vous évoque, vous, déjà, la convergence des luttes.
J'ai une histoire assez particulière, en fait, dans mon militantisme, parce qu'il faut savoir que j'ai grandi dans un milieu très bourgeois, le 17e arrondissement, et donc j'étais entouré de discours conservateurs, néolibéral, racistes, LGBT-phobes. Et donc, en fait, j'étais pétri de ça et j'étais très, très de droite, en fait. Donc, j'ai eu un rapport à tout ce qui était convergence des luttes comme un... Tout ce qui était un peu idiot, des gens qui militent, je sais pas pourquoi, c'est facile, si on veut, on peut, tout ça, c'est vraiment avec ça que j'ai grandi. Et après, en fait, mon lycée est allé dans le 9e arrondissement, où c'était un peu plus melting pot, même si c'est pas ultra populaire, le 9e arrondissement. Et donc, j'ai un peu appris ce que c'était le militantisme, je suis allé au Bondy Blog et j'ai vu tout un autre monde. Et le mot convergent de l'élu, c'est un mot très ancien. J'ai pas l'impression qu'il arrive maintenant. Je sais pas pourquoi, je le trouve un peu fourre-tout et qu'on l'utilise un peu tout le temps et n'importe comment. Et c'est plus le mot qui m'a plus touché, c'est intersectionnalité plutôt. Sur des personnes qui se trouvent à l'intersection de plusieurs oppressions, comment ça se... comment ils le vivent en fait de manière très spécifique à eux-mêmes. Par exemple, moi j'étais déjà le seul noir dans ma classe jusqu'en première, et j'étais très efféminé, en tout cas trop efféminé pour eux. Et le fait que je sois noir et que je ne corresponde pas à cette masculinité noire qu'on imagine a fait que j'ai vécu une homophobie, une biphobie qui était vraiment de la surprise en fait. C'est comment ça se fait que c'est pas une racaille des quartiers, comment ça se fait que tu parles bien, tout ça, un peu tout ce que j'ai dit dans l'extimité. Et donc en fait le mot intersectionnalité me plaît beaucoup mieux.
Tu parlais tout à l'heure du fait que dans certaines luttes c'était plus les personnes blanches qui étaient mises en avant, dans les luttes ouvrières ou même dans les luttes queer ou autres. Et je pense que ça se rapporte vraiment à la phrase lutte des classes, mais pas lutte des races. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes blanches de gauche, que ça soit dans le PCF. On va pas donner de nom, mais en fait, il y en a sur Twitter.
France Insoumise
ou Génération, qui justement s'approprient toutes ces luttes-là, mais qui nous effacent. Et je pense que c'est à partir de là où le mot convergence de lutte, comme tu disais, est un peu fourre-tout, dans le sens où nous, les personnes en minorité, que ce soit des personnes racisées, pour le coup, on est vraiment plus concernées, et que c'est plutôt une convergence de personnes privilégiées, on va dire, au niveau racial, qui, elles, mènent leur lutte entre eux, mais qui, nous effacent. Voilà, au niveau des convergences de lutte, moi, personnellement, si je reprends le terme de l'intersectionnalité, c'est plus moi, en tant que personne queer et racisé qui vit, on va dire, cette intersection de luttes qui sont les miennes.
Okay. Et pour toi, Soun ?
Pour moi, je pense le mot convergence de lutte, c'est un mot un peu fancy pour dire collaboration, entraide, partage ou des mots similaires à ça. Pour moi, c'est un but commun et on identifie entre guillemets un ennemi commun et qu'en gros, c'est des groupes assez différents qui se disent ah ben, on veut travailler ensemble sur ce truc-là. Par exemple, on veut détruire le patriarcat, par exemple. Et du coup, il y aura plein de groupes différents qui travailleront pour arriver à ce but commun, mais des personnes qui sont assez différentes. Et en fait, chacun pense, par exemple, les personnes queer ou les personnes racisées ou les personnes... peu importe, pensent qu'ils ont chacun leur agenda individuel, mais en fait quand on va un peu à l'extérieur on voit qu'on a un peu tous un but commun et que en fait nos luttes elles se croisent et du coup pour moi c'est ça en fait la convergence de lutte. Par contre je trouve que dans le mot convergence de lutte il y a un peu un angle mort qui oublie les personnes comme vous avez dit vous deux qui ont à peu près deux luttes, par exemple les personnes queer racisées ou les personnes queer racisées en situation d'handicap, etc., etc. Et du coup, je trouve que la convergence de lutte, des fois, elle a cet angle mort qui n'y pense pas vraiment.
Cette thématique-là, j'ai pas envie de... Même si on sait que actuellement, c'est comme ça, dans les associations, dans le milieu militant, il y a les personnes blanches qui sont surreprésentées. Il y a le syndrome du sauveur aussi, c'est-à-dire, au lieu de se positionner en tant qu'allié, ces personnes vont... avoir une certaine fierté en fait à aider leurs frères et sœurs, leurs camarades oppressés, opprimés, mais qui vont se mettre en avant au lieu de tendre le micro, justement de passer le micro et de donner la parole à ces personnes. Et en fait, moi je me disais, nous en tant que personnes minorisées, vous avez évoqué l'intersectionnalité, comment on pourrait décider du curseur en fait de nos luttes entre nous, parce que quand on voit, par exemple, dans les luttes LGBT, dans la problématique queer, il y a aussi, par exemple, les personnes intersexes qui ne sont pas forcément mises en avant. Même au sein de nos minorités, il y a déjà ce besoin de se mettre en avant selon l'urgence de certaines luttes. Vous pensez comment on peut régler cette problématique-là ? Est-ce qu'il faut vraiment faire des petits clans pour... voilà, avoir nos spécificités et ensuite se rejoindre, ou c'est maintenant ou jamais qu'on peut se rassembler ?
Moi, je suis pas forcément contre le fait qu'on soit un peu dissocié, parce que je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'on a un ennemi commun. Il y a plusieurs systèmes d'oppression qui sont assez chaotiques et qui ont leur fonctionnement propre. Et croire qu'il y a une sorte d'énorme état patriarcal, libéral, pénal, etc., une sorte de mix, je pense que ça nous bloque. Et quand on est dans une lutte bien précise, même s'il peut y avoir des problèmes, il faut toujours se demander qui n'est pas là. Il faut essayer de comprendre les logiques de fonctionnement de l'oppression qu'on subit. Je vais prendre un petit exemple. Quand on voit le fonctionnement du système pénal, par exemple, l'incarcération, tout ça, on voit que l'État, il sociabilise à des endroits où il ne faut pas sociabiliser, qui crée des choses comme la société, l'ordre public, etc., et qui met la responsabilité sur un individu qui serait le porteur responsable de tout ça. Et en fait, on voit que, par exemple, il y a des économistes libéraux, néolibéraux, qui étaient contre tout ça, en fait. Et que dans leur logique, dans leur discours, ils avaient l'État ne peut pas être partout, ils sont un peu contre l'État, pas anarchiste, mais contre l'État autoritaire qui s'octroie le droit sur les citoyens. Et on voit très bien là que, même s'il y a des logiques néolibérales dans le fait d'enfermer les gens, de mettre la responsabilité, d'individualiser les personnes, qu'il y a des discours néolibéraux qui pourraient combattre et qui combattaient, même dans le passé, les logiques pénales. Donc en fait, et même pour les personnes intersexes, le fait qu'elles soient en dehors, ou bon, elles ont été oubliées, etc., mais c'est que quand je subis, je ne subis pas la biphobie ou l'homophobie, n'a pas le même rôle, ne fonctionne pas de la même manière que l'intersexphobie, par exemple. Et qu'il y a une logique de, même s'il y a une logique du naturel, de ce que ça doit être un homme, de ce que ça doit être une femme, de ce qu'on doit faire, c'est que ce qu'ils subissent, ce n'est pas forcément la même chose. Et qu'il faut aussi les laisser parler de leur côté, et bien sûr tendre le micro. Mais je pense que le fait que les luttes explosent, et que bien sûr à des moments il faut se mettre ensemble parce qu'il y a des logiques de fonctionnement qui sont les mêmes, bah, tant mieux, il faut le faire, mais quand il y a des logiques de fonctionnement qui ne sont pas du tout pareilles, bah, en fait...
Vaut mieux laisser en fait, les différences à chaque fois entre les personnes qui militent pour une cause précise.
Ouais, et ça ne veut pas dire ne pas s'allier par moment, en fait. C'est ça que je veux dire.
Moi, ce que je comprends de ta question, c'est en fait, il y a des personnes qui sont oubliées dans certaines luttes. Par exemple, la lutte des classes, on oublie les racisés, etc. Et ben moi, je pense que c'est OK de travailler chacun de son côté. Parce qu'en fait, on est plus connaisseur de notre sujet. Moi, par exemple, je ne sais pas, en tant que personne queer et musulmane, je sais ce que je vis tous les jours. Et c'est vrai, une personne queer, racisée, pas musulmane, ne pourra pas comprendre comment moi, je vis mes choses. Et d'une manière un peu pratico-pratique, moi, je pense que sur certaines choses, il y a grave possibilité de s'entraider. Par exemple, pour donner un exemple assez concret, je ne sais pas si récemment vous avez vu l'action qui a été faite par rapport aux piscines, où il y a eu plusieurs personnes, en fait, voilà, dans les piscines, avoir un habit, enfin, le burkini est interdit en France, et du coup, il y a eu une action qui a été faite par des personnes musulmanes, et pas que, il y a eu des personnes trans, il y a eu des personnes pas musulmanes, il y a eu des personnes blanches, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont quand même fait l'action avec des personnes musulmanes, et en fait, c'était vachement intéressant, parce qu'en fait, en gros, notre but, c'est là de dire, en fait, foutez-nous la paix, on veut s'habiller comme on veut. Et du coup, ça ne touchait pas que les personnes musulmanes, mais ça a été un peu... Enfin, c'est une islamophobie dont l'État, il a fait ça. Et du coup, là, par exemple, on avait un but commun, c'est, en fait, je veux m'habiller comme je veux et je veux aussi nager. Et du coup, bah, y a eu plusieurs personnes qui se sont reconnues dans ça, et du coup, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait l'action. Et là, pour moi, ça, c'est un exemple concret de ce qu'on peut appeler la convergence de lutte ou l'entraide. Enfin, pour moi, c'est un peu un truc basique de en fait, juste s'entraider et être ensemble. Je pense que c'est grave possible de chacun travailler dans son coin. Le reste du temps, bah, les personnes musulmanes sont dans leur coin, ils mènent leur lutte. Il y a les personnes trans, il y a les personnes racisées, etc. Et en même temps, il y a des moments où on vient tous ensemble parce qu'en fait, c'est un truc qui nous touche tous.
Et est-ce que, Jean-Victor, tu voudrais réagir ? Justement, comment en fait sortir de la majorité en mode la classe contre la race ou les systèmes d'oppression
Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que concernant les luttes queer, par exemple, c'est vraiment un sujet, je pense, dont on ne parle pas assez, la discrimination dans la communauté queer. Le racisme dans la communauté queer, par exemple, dans le sens où une personne queer blanche, même si elle est queer, elle va quand même être privilégiée par sa couleur de peau. Et que la communauté queer qui veut s'avérer comme la communauté la plus ouverte, la plus tolérante, n'échappe pas au blanc triarcat. Et le problème est que je pense qu'il n'y a pas forcément conscience de ça dans cette communauté présente, ce qui fait que des personnes queer blanches vont aller oppresser des personnes racisées. Et à partir de là, c'est les personnes blanches qui vont, pour moi, mener les luttes, ou du moins les mener, et vont être les plus exposées, parce que ce sont les plus privilégiées, en fait. Et que, à partir de là, on n'est même pas égaux dans nos propres communautés. Et là, ça pose un problème, en plus du fait que, par exemple, nous, les personnes queer racisées, on va lutter pour nos luttes, mais que les personnes qui vont le plus en profiter, c'est les personnes blanches, mais qu'en plus, ces personnes blanches ne seront même pas forcément conscientes du racisme qu'ils ou elles oppressent envers nous, ne vont pas s'y intéresser et ne vont même pas lutter avec nous. Et là aussi, ça pose un problème qu'il n'y a pas de, on va dire, d'ascenseur qui est réenvoyé envers nous. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce qu'on est seul ? Est-ce que justement, on doit mener nos propres luttes qu'entre queer racisés ? Et j'aimerais dire qu'on n'a pas besoin de personnes blanches dans la lutte queer, mais c'est faux. On a besoin d'alliés, on a besoin de personnes qui relaient nos paroles, on a besoin de personnes qui ont la chance d'avoir la place dans tel ou tel collectif, la place dans tel ou tel média queer parce qu'elles sont blanches, que nous, on ne peut pas avoir de par le racisme systémique. Et donc pour ça, non, on doit, je ne vais pas dire malheureusement, mais on doit quand même compter sur ces personnes-là. Et comment changer ça, je ne sais pas, je dirais, informez-vous. Maintenant, la preuve est que, par exemple, sur Twitter, qui est quand même un très bon, je trouve, un très bon condensé de la société actuelle, je peux voir, par exemple, des personnes gays blanches qui n'ont aucune conscience du racisme, qui l'exercent, qui, quand moi, j'en parle, elles vont me dire non. Enfin, mais des personnes militantes, hein, des personnes même... Il y a un moment, je parlais de ça, du racisme dans la communauté queer, et des personnes militantes, une personne de 40 ans, un homme blanc qui est venu me voir et qui m'a dit... Non, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est toi qui divises les luttes, c'est toi qui crée
la fameuse division.
Un vide entre nous. Et moi, je commence à dire, non, je pense que... En plus, c'est important de dire que moi, je sais mieux parler de racisme que toi parce que je le vis. Et ça, je pense que c'est important de se rappeler que les discriminations qu'on vit, on en parle mieux que celles et ceux qui ne le vivent pas. Et donc, lui essayait de me dire que lui s'y connaissait mieux, et en plus de par son ancienneté dans les luttes. Donc il me disait, moi j'ai 40 ans, donc j'étais dans un collectif depuis plus longtemps que toi, donc je sais mieux que toi. Et c'est là où je pense qu'il y a quand même vachement un problème d'éveil de conscience vis-à-vis de tout ça.
Je pense que tu as totalement raison, en fait, aussi... ça c'est hyper important ce que tu as dit, mais je pense que aussi ce qu'on oublie dans convergence de lutte ou peu importe de ça, c'est qu'en fait c'est pas juste blanc versus non blanc, il y a aussi pauvre versus riche, cis versus trans, racialisation certaine versus notre racialisation, qu'il faut aussi prendre en compte. Moi je pense que même au sein de la lutte queer, c'est pas juste les problèmes de les blancs et les non-blancs. Je pense qu'il y a aussi au-delà, il y a des non-blancs méga friqués qui peuvent aller au-delà et qui peuvent faire plein de choses que, je sais pas, par exemple, des non-blancs qui n'ont pas les moyens, qui peuvent pas se permettre plein de choses. Enfin, il y a aussi, je pense, parce qu'en fait, quand on en arrive à la conclusion, les blancs, c'est de la merde, ils prennent trop de la place et on n'arrive pas à rien faire, du coup, on croise les bras et on fait plus rien, mais en fait... Il faut aller au-delà parce qu'en fait, il faut survivre en même temps. Du coup, il faut aller au-delà. Du coup, après aller au-delà, il faut réfléchir. Je choisis les blancs avec qui je veux travailler ou je ne travaille plus avec les blancs, mais du coup, j'ai conscience que je ne vais pas pouvoir tout faire et c'est OK. Mais après, tu vois, on arrive juste à les blancs, éduquez-vous. Ils ne vont pas s'éduquer. Et aussi, même s'éduquer, il y a aussi des trucs de nature qu'on ne peut pas y aller. Enfin, je ne sais pas. Les personnes cis, ils seront toujours transphobes parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire la transidentité. Donc en fait, c'est la même chose pour tout privilège versus, je ne sais pas l'inverse de privilège, c'est quoi, mais bref, voilà.
Moi, je suis toujours entre les deux. Je sais parce que je vis, l'oppression, et je sais parce que j'ai lu. Parce que j'ai envie de dire que le Miguel d'il y a 6 ans, 7 ans, qui était au collège et qui était entouré de blancs et qui voulait s'assimiler, qui vivait évidemment du racisme, il savait pas forcément très bien parler du racisme, tu vois. Et je pense qu'il y a, je sais pas, il y a plein d'intellectuels, même peut-être blancs, hein, qui parleraient mieux du racisme que moi à cette époque-là. Et moi, je trouve que la force qu'on en tire, c'est bien sûr de notre expérience, parce qu'on peut pas le nier. Et que même tout théoricien, tout intellectuel qui travaillera sur ces questions-là pourra jamais comprendre le sentiment qu'on a. Et en même temps, je trouve qu'il y a une force incroyable dans la théorie. Et qu'il y a certains bouquins qui sont fous et qui peuvent parler d'une manière extrêmement bien du racisme et qui peuvent être écrits par des blancs, quoi. Et voilà, je trouve qu'il y a une force dans la théorie, il ne faut jamais l'oublier. Et voilà.
Mais la théorie, elle n'est pas accessible à tout le monde. Tu vois, moi, par exemple, j'ai hyper du mal à lire. Moi, j'ai lu zéro bouquin. Et ce n'est pas ça qui m'a appris à comment me démerder dans ma vie, pas du tout. Parce qu'en fait, lire, c'est compliqué. Des fois, pour certaines personnes, moi, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. La moitié des mots, je ne les comprends pas. Par exemple, quand tu m'as envoyé le mail avec les questions, merci, mon mari, il était là et il m'a tout expliqué. Mais en fait, moi, je ne comprenais rien.
Parce non, je suis désolée.
T'inquiète pas.
Comme quoi, tu vois.
En fait, parce qu'en fait, c'était assez compliqué, tu vois. Et en plus, il y avait tout un passage où je comprenais pas, je me suis sentie conne. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Mais en fait, lire, c'est compliqué. C'est pas simple pour tout le monde, tu vois. Et du coup, la théorie, elle reste du coup compliquée. Parce que en vrai, moi, je peux lire, je sais pas, par exemple. Je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui a fait Peau noire, masque blanc. Et ben en fait, voilà, ça a l'air hyper intéressant. Moi, je n'ai même pas pu finir 2 pages, tellement je n'ai rien compris. Mais en même temps, je comprends ce que ça veut dire être racisée en France, parce que c'est ma vie et je la vis. Et du coup, la théorie, je trouve que c'est des mots hyper compliqués pour dire des trucs archi simples. Voilà, des trucs en fait, écoute, et c'est pour ça par exemple, petit clin d'œil sur Marie Da Silva, qui est, je sais pas si les gens la connaissent, du coup en fait qui est une coach pour les personnes racisées dans le milieu du travail notamment, mais entre autres, pour un peu survivre le travail, et en fait elle, je la trouve archi terre à terre parce qu'elle dit, Jean-Michel, il t'a dit ça, écoute, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est hyper pratique, alors qu'elle, je suis sûre qu'elle a lu tous les bouquins, mais elle le traduit de quelque chose hyper simple, terre à terre et pratico-pratique. Et la théorie, c'est bien simple et mignon pendant un moment, mais après, à la fin, on ne peut pas aller au-delà. Je pense, enfin, c'est mon avis, quoi.
Et en fait, de ce que vous dites aussi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de... On en revient aussi hein, par rapport à la table ronde d'avant, c'est ce besoin de pédagogie. Parce que pour expliquer la convergence de lutte, pour expliquer à des personnes qui n'ont pas un but commun pourquoi elles devraient mettre de côté la classe, on va reprendre, parce que voilà, on va reprendre le thème du classisme, mettre de côté la classe pour en fait changer leur regard par rapport à la race, par rapport à la thématique de la queerness, etc. Il faut apprendre à ces personnes-là aussi. Et en fait, ça passe par un travail militant. Est-ce que vous sentez encore la force de le faire pour le bien commun, justement, comme tu disais, Soune ?
Très honnêtement, je suis arrivé à un moment où je ne crois plus à la pédagogie. Comme je l'ai dit, j'ai grandi dans un milieu très blanc, très bourgeois et tout. Et je pense qu'à partir de la première où j'ai vraiment compris que t'es PD, ça ne va pas changer, t'es noir, ça ne va pas changer non plus. Et il va falloir que tu éduques les gens. Et j'ai vraiment fait ça. Donc... je faisais vraiment des cours particuliers de théorie à mes petits potes blancs qui ouvraient pas ces bouquins et qui avaient juste la paresse intellectuelle de les ouvrir, en fait. Et donc j'expliquais, alors James Baldwin, il a écrit ça. Alors François Fanon, il a écrit ça. Alors c'est faut pas dire nègre parce que c'est raciste et tout, vraiment. Et tu vois que ça marche pas. Et moi, il y a un moment clé, c'était j'ai donné des cours de chimie à des élèves qui étaient plus petits que moi. Et là, c'est le déjeuner, et ils disent « nègre » entre eux. Là, je raconte ça souvent, c'était vraiment un moment clé pour moi. Et ils disent « nègre » entre eux, et moi je suis là « mais wesh ». Et ils disent entre eux, une fois, deux fois, et la troisième fois, je dis « mais en fait, on ne dit pas « nègre », c'est raciste en fait, on ne dit pas ». Et là, des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont rien vécu, me disent « mais en fait, Miguel, tu n'as pas compris, le racisme, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, ça ne marche pas comme ça ». Et là, je suis là. Et je commence à leur expliquer, en fait, Negue, c'est ça l'histoire. Et là, il me coupe, et puis non, mais en fait, j'étais aux États-Unis, tout le monde le disait. Je fais, en fait, soit t'es avec des noirs américains, et donc, normal, soit t'es avec des racistes, tu vois. Et en fait, je me vois faire l'histoire du mot, du concept et tout. Et donc, je viens de donner des cours de chimie, je donne des cours de racisme, et ça passe pas. ils comprennent pas. Et c'est quand je m'énerve, que je joue l'arrogant, que je joue, en fait, j'ai vécu tout ça, de quoi vous me parlez, vous êtes des merdes, que tout d'un coup, il y a un truc qui a changé. Que les gens savent, moi, je sais, pour moi, les gens savent. Tu peux pas vivre dans ce monde et pas savoir qu'il y a du sexisme, en fait. Tu peux pas vivre dans ce monde quand tu vois Adama Traoré mourir et te dire que peut-être Adama, il a cherché, en fait. Les gens savent et tout marche au déni. La bourgeoisie, elle marche au déni. Comment tu peux vivre aujourd'hui en France ? Comment tu peux voir les gilets jaunes se plaindre de donner de la merde à leurs enfants et de croire que... En fait, ils n'ont pas besoin d'expliquer. Tout ça, ils savent. Et moi, quand je parle de la théorie, que je trouve que c'est beau, c'est pas tant parce qu'elle m'a appris quelque chose, qu'elle a cassé tous les discours de dénégation que j'avais enregistrés en moi depuis mon enfance. Les gens savent. Peut-être qu'ils ne savent pas tout. Peut-être qu'ils ne savent pas précisément, mais ils le savent. Et on n'a pas besoin d'être pédagogique. On a juste besoin de leur faire comprendre que soit ils doivent arrêter de faire semblant, soit on va les dégager. Je ne sais pas comment, après, mais il faut leur faire comprendre ça.
Tu veux réagir, Jean-Victor ?
Concernant l'injonction à la pédagogie, je pense que c'est quand même important de dire... Enfin, moi, personnellement, quand j'ai pu faire de l'injonction à la pédagogie, je me dis, quand j'en fais, déjà, je suis dans une position vulnérable. Parce que je suis là à parler avec une personne qui n'est pas concernée par mes oppressions pour lui dire ce que je vis. Pourquoi cette personne doit me croire alors qu'elle ne va pas forcément me croire et en plus venir me rétorquer ce que je raconte, c'est faux, en disant des réponses comme celle-ci. Donc, ça prend mon temps, ça prend mon énergie, ça peut me drainer, ça peut m'énerver, ça peut me rendre en colère, ça peut me rendre triste et ça peut aller jusqu'à des breakdowns. Et je pense qu'à ce moment-là, je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que la personne à qui je vais aller expliquer les oppressions que je vis va écouter ? Est-ce qu'elle va être apte à écouter et est-ce qu'elle va être apte à se déconstruire et à la fin va se dire oui, peut-être que tu as raison. Enfin, peut-être. Oui, tu as raison. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, maintenant, actuellement, en tout cas, je décide de parler du sujet comme le racisme, comme les luttes queer ou l'adoption, uniquement soit des personnes concernées parce que maintenant, je préfère me concentrer et dépenser cette énergie-là pour des personnes concernées mais qui ne sont pas forcément déconstruite pour leur expliquer, pour les aider possiblement tout ça, comment on m'a aidé à comprendre ce que c'est le racisme, que à des personnes déjà qui ne sont pas concernées parce qu'elles ne sont pas ma priorité, mais en plus de ça, je me dis voilà, est-ce que j'ai l'énergie de le faire ? Et si ce n'est pas le cas, maintenant j'utilise la technique des ressources. Donc si une personne vient me demander qu'est-ce que c'est le racisme, qu'est-ce que c'est l'homophobie, après, dans des notions peut-être plus précises, et là, je dis, j'ai pas l'énergie de t'expliquer. Donc, je t'envoie tel article, je t'envoie tel podcast, je t'envoie tel livre, selon la personne, si elle préfère écouter, si elle préfère lire. Voilà, vraiment, parce que je pense que maintenant, on a quand même la chance d'avoir Internet et d'avoir des ressources énormes. Vraiment, il y a vraiment des militants et des militantes qui font un taf énorme et qui abordent tous les sujets divers et variés. Et je me dis, tu vas écouter ça ou tu vas lire ça. Et si ça t'intéresse vraiment, tu le feras. Mais moi, là, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de me fatiguer, parce que je suis trop fatigué aussi d'expliquer, parce que c'est fatigant d'expliquer pourquoi ce que je vis tous les jours, pourquoi je me sens pas en sécurité forcément quand je me balade dans la rue, parce que le jour à Châtelet, j'étais dans un escalator et t'as un groupe de deux personnes qui ont imité l'accent asiatique, j'ai pas l'énergie pour ça. Ou qui font des yeux bridés, ou des personnes qui vont venir me voir. Concernant l'adoption, t'es pas légitime de te sentir français, retourne dans ton pays parce que t'es pas chez toi. Et genre ça, j'ai plus l'énergie en fait pour expliquer tout ça. Je pense qu'il y a vraiment la notion de fatigue. Et à un moment, faut vraiment prendre soin de soi avant d'aller faire de l'injonction à la pédagogie qui marche pas toujours. Voilà.
Moi, c'est vrai que ça fait quand même hyper longtemps que j'ai arrêté de faire de la pédagogie, si on parle vers les Blancs. Je travaille qu'avec des personnes blanches à qui on est plus ou moins sur la même lignée politique où j'arrive à m'entendre avec eux, où j'ai totalement des intérêts à avoir avec eux. Ils ont de l'argent ou ils ont des espaces à nous donner, à nous fournir, etc. Mais par contre, pour moi, la pédagogie, elle va au-delà du coup de blancs, non-blancs. Je sais que moi, j'ai déjà pu... Après, pédagogie, je trouve que c'est un mot un peu compliqué pour dire juste je raconte ma vie ou j'explique quelque chose. Mais Moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec des personnes racisées, queer ou pas queer, hein, françaises, sur ah bah en fait, ça veut dire quoi de quitter un pays qui est en guerre, ah ça veut dire quoi aller à la préfecture une fois dans l'année, avoir une titre de séjour, etc. Parce qu'il y a des personnes qui savent pas et c'est ok. Enfin, moi, parce que du coup, je choisis, c'est des personnes dans mon entourage, proches, etc. Et sur d'autres choses, par exemple, ça veut dire quoi de porter le voile en France, etc. Et du coup, bah, moi, mon choix de pédagogie, il arrive à des personnes à qui sont autour de moi et que j'ai envie qu'ils comprennent, moi, ce que ça veut dire pour moi, ça ou ça. Et du coup, bah, pour moi, ça devient moins une injonction ou un truc hyper lourd, mais ça devient plus un truc, écoute, voilà, moi, c'est comme ça. Et je suis sûre que moi, j'ai plein d'angles morts sur toi, ta vie, du coup. Et comme ça, on vit mieux ensemble, quoi, des trucs comme ça. Après, dans des milieux militants et politiques, la pédagogie, effectivement, c'est vrai que moi, je la fais plus du tout avec des personnes blanches. Mais par contre, par exemple, être invité à Extimité et parler, ça, c'est une forme de pédagogie. Parce qu'on a quand même passé une heure et demie à parler. Et du coup, toi, tu as fait un taf de ouf pour après éditer, etc. La publication, et notamment, ça, c'est tout un travail de pédagogie. Nous, avec Déraciné, quand on se casse le cul pour faire des interventions, des festivals, etc., on l'ouvre à tout le monde. Et ça, c'est une manière de faire la pédagogie. Donc, ça rejoint un peu ce que Jean-Victor disait, du coup, de... en fait, la pédagogie, elle se transforme que... assis-toi, chouchou, je vais t'expliquer ce que tu as fait, c'est pas bien.
Je dis que je ne crois pas à la pédagogie, mais en fait, je ne fais pas de pédagogie sur ce que je vis. Du moins, par contre, je fais de la pédagogie avec d'autres mecs. Sur le sexisme, sur ce que ça veut dire, etc., sur les lectures que j'ai pu avoir. Et j'ai vu, en fait, dans ma manière, par le passé, de me dissocier des anciens des mecs. En fait, putain, mais je ne disais pas ça. Mais c'était clairement ça mon comportement. Putain, mais les mecs, ils sont tellement sexistes. Moi, comment je fais pour pas être sexiste? Et c'était pas du tout ça, mais c'était comment... si j'ai un regard critique sur moi-même par le passé, c'était ça. Et comment, en fait, utiliser cette proximité masculine qu'on a entre les mecs, quand on est entre nous, en fait, dans les cercles en non-mixité, pas forcément, pas du tout choisis, mais qui sont là parce que c'est comme ça que le monde est. Exactement, c'est là où en fait je crie pas sur la personne, et même si par moments ils peuvent avoir des propos aberrants, mais c'est que tu utilises cette fausse proximité qui est totalement juste là entre dominants qui se kiffent, et pareil pour mes amis extrêmement bourgeois sur les gilets jaunes, et comment ça, je peux pas faire, mais j'ai vraiment eu ça de mes courses à Louis Vuitton, est-ce toi Miguel qui est de gauche, est-ce que les gilets jaunes vont être à Louis Vuitton pour que je fasse mes courses Noël? Et moi j'étais là genre waouh. Et là je m'énerve pas parce qu'en fait qu'est-ce que ça fait m'énerver contre la personne? C'est juste moi me construire en personne tellement de gauche et tellement bien et qui fait pas ses courses à Louis Vuitton pour Noël. Alors je dis mais en fait tu dis pas ça parce que c'est de la merde et tout. Mais en tout cas j'utilise cette fausse proximité là pour éduquer sur des questions qui là forcément ne me touchent pas.
Merci. Et bon là j'ai une question un peu apocalyptique. Imaginons là demain il y a une loi en fait qui en tant que personne racisée, en tant que personne queer, en fait nous enlève nos droits, je sais pas, à la santé. Il existe clairement par exemple le don du sang des personnes gays, notamment les homosexuels en France, mais vraiment une loi qui passe comme ça, un décret qui nous abroge de tous nos droits. Vous pensez que là, il y aurait un soulèvement national pour nos droits en tant que personne noire, en tant que personne queer? Par exemple, on le voit avec les violences policières, le nombre de personnes, d'hommes racisés, plus de 600 en 10 ans, et il n'y a jamais vraiment eu de rassemblement. Et en fait, quand les gilets jaunes arrivent et qu'il y a des violences policières qui sont mises en exergue, notamment par les journalistes, et ben là, il y a une sorte de conscience nationale qui s'opère. Alors que ça fait 10 ans que les hommes racisés meurent.
Pas du tout. J'y crois pas du tout. Déjà parce que ça arrive déjà. Si on regarde le système de santé en France, c'est déjà le cas.
Mais un truc aberrant, tellement grand, tellement visible que on rentre dans le fascisme et c'est la fin de la France.
Non, mais. Je pense que ce n'est pas dit ouvertement, mais quand tu as les policiers qui ont poursuivi Ziyad et Bouna qui sont relaxés, l'État dit vous avez le droit de poursuivre des Noirs et des Arabes, même si vous les mettez en danger. C'est ça que l'État dit. Si le policier, les gendarmes qui ont tué Adama Traoré sont totalement relaxés, c'est ça que l'État dit. Et quand on voit le système de santé, c'est totalement aberrant. Les femmes noires qui subissent beaucoup plus de, pas de péridurale, mais de césarienne, alors qu'il n'y a pas besoin. Et en opposition, je pense que si on veut parler du système de santé des personnes racisées, il faut aller en Outre-mer. C'est aberrant. Il n'y a pas de spécialistes, les hôpitaux sont en mauvaise condition. Là, on en parlait il n'y a pas très longtemps parce qu'il y avait vraiment un truc, parce qu'il y avait des insectes, il y avait eu un incendie, etc. Tout ça se passe.
La couverture médiatique, elle a été ridiculement petite, quoi.
Elle était minuscule. Et en fait, je pense aussi que la couverture des gilets jaunes, c'était pas tant parce que les journalistes avaient de la peine. Et je pense qu'il faut pas forcément. C'est pas moi qui le pense, mais c'est Geoffroy de la Guerre, il le disait dans Combat à Dama. Les violences policières qui s'exercent à l'égard des gilets jaunes, c'est parce que il faut déjà pour subir ces violences-là, il faut aller manifester. Si on va pas manifester, on les subit pas. Et ça, c'est pas un acte ontologique sur ce qu'on est nous. Après, je suis bourgeois, donc j'ai pas le même rapport à la police. Mais quand on est, il nous suffit de sortir en fait. Et c'est ce qui se passe. C'est que si les gens arrêtaient de faire semblant, c'est qu'ils verraient que les femmes racisées sont très maltraitées par le système de santé, qu'il y a tout ce qui est pour les femmes maghrébines,
syndrome méditerranéen.
Syndrome méditerranéen, qui fait qu'on ne traite pas du tout les femmes maghrébines.
Toi qui étudies en médecine, est-ce que tu peux nous en parler?
Mais c'est totalement aberrant. C'est totalement fou. Il y a un racisme de malades dans le milieu médical. Et d'ailleurs, il faut voir qui devient médecin en fait. C'est que les études de santé, à ma génération, donc ça veut dire il y a vraiment 2 ans, c'était 5000 euros l'année de la prépa pour la première année. Mais à Paris, ils ont arrêté les redoublements, donc c'est 10 000 euros pour devenir médecin. Et en fait, déjà, c'est que des blancs, fils de... Ma mère est médecin, je pense que c'est pour ça que je suis là. C'est des fils ou filles de médecins, etc., etc. Et je pense déjà, quand on voit qui est la population qui soigne, on n'est pas du tout étonné. Et en même temps, c'est totalement aberrant le nombre de patients qui meurent. Pareil pour les dons d'organes. Il y avait une étude qui était de 2016, je crois bien, qui prouve que, en enlevant, parce qu'il y a toute l'histoire de compatibilité pour les dons d'organes, en enlevant ça, on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'attentes pour les personnes racisées pour avoir une transplantation de foie, etc., etc. Et je pense qu'on peut voir ça pour tout et n'importe quoi. Et même, qui a accès aux soins ? Bien avant même d'être à l'hôpital et qu'on te maltraite, on voit très bien que, par exemple, SOS Médecin, il ne va pas partout. Il ne va pas dans certains quartiers. Il faut voir les services d'urgence de certains quartiers. Et il y avait une très belle émission, Des Pieds sur Terre, sur France Culture, et c'était des médecins, des urgentistes de banlieue qui vous expliquent que c'est totalement fou. Et en plus, rien qu'à voir le nombre de médecins par habitant dans les quartiers populaires. Je pense qu'il y a accès aux soins. Et même, on voyait, et là, ce n'est pas forcément par rapport aux médecins et au système de santé, mais qu'il y a accès à la culture médicale, aux soins d'urgence. Il y avait une carte de l'Île-de-France avec le taux de survie pour quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde. Quelqu'un qui a un infarctus, comment on reconnaît ? Et on voit très bien que dans tout 17e, 16e arrondissement, etc., et le centre un peu de Paris, c'était aux alentours de 8%. Et pareil pour la banlieue, sauf les Hauts-de-Seine, où c'était 8 ou 9%. Et dès qu'on était dans les quartiers populaires, c'était 5, 3%. Donc on voit très bien qu'il y a une culture qui a accès à la culture médicale, etc. Et on peut aller très très loin comme ça. Évidemment. Et ce truc apocalyptique, on l'est déjà, en fait.
Oui. Ouais, mais c'est juste que du coup, c'est en fait, ça s'immisce dans les champs sociaux, dans les couches sociales, et c'est pas décrété en fait, c'est pas un décret, aujourd'hui le 1er janvier 2020, telle population est totalement discriminée, etc. Et c'est ça aussi en fait, je pense le piège quoi, c'est que c'est depuis des années et des années quoi. Je sais pas si vous voulez réagir aussi après.
J'avoue, je sais pas si y a un truc. Extronomie qui va se passer s'il y aurait des gens dans la rue, j'espère. Après, Je sais pas, en France, je sais pas trop, j'ai pas assez vécu ici pour voir si vraiment la grève et compagnie, ça marche trop. Enfin, moi, je vois juste, par exemple, ce qui s'est passé avec la SNCF. Ils ont fait grève, les pauvres, pendant je sais pas combien de temps, et à la fin, ils ont rien passé. Enfin, les lois, c'est toujours dedans. SNCF, ça, c'est quand même devenir privé, et ils auront plus du tout leurs avantages, il y aura rien du tout. Donc, j'ai pas l'impression que ça marche trop. Et surtout, bah, je sais pas, par exemple, les politiciens aujourd'hui, mais encore, j'y connais pas grand chose, hein, mais j'ai l'impression qu'ils connaissent comment ça marche. Ils savent que les gens, ils vont faire des manifs, et après, ils vont en avoir marre, et ça va s'arrêter. Du coup, je pense que non plus les gens qui sont au pouvoir, ils savent que c'est pas non plus des débiles, donc ils savent comment le peuple ça marche, et qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société. Dès que tu lui coupes son moyen de vivre, donc l'argent, il a besoin de faire des choses. Parce que, bah, par exemple, les gilets jaunes, tu parlais des gilets jaunes, moi, je n'ai pas du tout suivi le mouvement, hein, mais je suppose que c'est des personnes de classe populaire, par exemple, ou, enfin, pas des riches, quoi, et qu'ils ont besoin un jour de travailler pour pouvoir nourrir soit leur-même ou leur famille ou autre. Donc, en vrai... j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, y a des mouvements, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui disent. Je ne sais pas si ça marche. Par exemple, aujourd'hui, les gens ils sont un peu plus conscients, par exemple, du racisme, de l'homophobie, etc., dans les institutions. Mais parce qu'en plus, c'est un peu à la mode. C'est un peu à la mode d'être color-friendly.
Inclusif.
Voilà, inclusif. Moi, j'ai une copine qui a pris un job à l'université. Sa chef, elle dit le mot woke. Donc, alors qu'elle est totalement pas woke. Enfin, mais elle le dit, elle l'utilise, elle dit qu'il faut l'être, il faut nanana. Mais elle sort des blagues racistes à n'importe quel moment. Donc, en vrai, je pense que c'est vraiment une image qu'on essaye de se donner. C'est un peu du capitalisme, quoi. On essaye de vendre un truc avec l'image qu'on a, mais en vrai, ça marche pas trop. Donc, en vrai, j'espère que ça arrivera pas, ce truc, ce moment, même si ça arrive petit à petit, hein, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a plein d'angles morts dans nos vies qu'on voit pas et que c'est la haisse, quoi.
Et en fait, ce qui m'a amené à cette question, c'est quand tu as parlé de l'action menée dans les piscines, c'est qu'en fait, ça touchait les libertés individuelles. Et donc là, il y a eu des alliés. Le corps, le vêtement, l'apparence, l'image. Là, tout de suite, là, on peut rassembler. Mais alors, quand ça touche des personnes spécifiques un peu de loin, comme ça, c'est très dur à... Je ne sais pas si
tu veux réagir. Et encore, ça n'a pas marché, l'action de la piscine. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a suivi à la fin, mais
oui,
ils ont été, je pense, escortés avec...
Ils ont fermé la piscine, ouais, voilà. Et après, le traitement médiatique...
Ça n'a pas marché. Donc, en vrai, on peut faire du bruit, mais je ne sais pas si ça va marcher. Parce qu'en vrai, c'est ça. Si on fait du bruit pour faire pression sur quelque chose... Mais je pense pas que ça marche comme ça, en vrai.
Alors, qu'est-ce que je veux dire ?
L'apocalypse.
Ah, yes. L'apocalypse. Alors, je sais pas si on y est encore, mais comme vous avez dit, je pense que la France a un gros problème avec toutes les questions de discrimination, surtout le racisme. Et je pense qu'on a pu le voir dernièrement avec l'affaire concernant Lilian Thuram et ses propos. Et voilà, je pense que... Il est clair qu'on vit dans un pays qui se voile complètement la face concernant le racisme, qui est dans le déni et qui aime se proclamer comme le pays des droits de l'homme et le pays des Lumières, sauf que c'est manifestement pas le cas. Et là, ça pose aussi un problème, parce que c'est-à-dire que quand nous, on va pointer du doigt, par exemple, le racisme systémique, on va pas nous écouter et on va dire qu'on a tort. Et en plus de ça, les grands médias, en tout cas, vont donner de la visibilité à des organismes assez... dont l'existence me fait un peu douter. Hein. Je ne sais pas, la Ligue contre le racisme anti-blanc, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est quand même assez grave comme période dans laquelle on vit, parce qu'on arrive à un moment où nous, on commence à parler, on prend la parole, on descend dans la rue, on essaie de parler, par exemple, oui, des violences policières et de toutes ces choses-là. Et que de l'autre côté, la réponse du système, de l'État, c'est non seulement on ne vous écoute pas, on ne vous croit pas, et en plus de ça, on va vous mettre sous le nez une notion du racisme anti-blanc qui n'existe pas, pour encore plus décrédibiliser ce que vous dites, parce que quand il y a, je ne sais plus son prénom, mais je pense que ce n'est pas important, mais quand il y a le président de la Ligue contre le racisme anti-blanc qui est invité sur des grandes chaînes d'information, sur CNews et compagnie, ça prouve quand même que là, on nous met devant le fait que pour eux, ça existe. Pour réel, le racisme anti-blanc, ça existe. Et non, nous, enfin, nous, nous, on sait que ça n'existe pas, mais quand même, je trouve que c'est quand même une volonté de nous faire taire, encore une fois, de nous décrédibiliser et de nous dire qu'on doit rester à notre place et que quoi qu'on va faire, quoi qu'on va dire, bah, ça va rester comme ça. Donc, est-ce que niveau apocalypse, je pense que dernièrement, on a quand même, la France a quand même vécu plusieurs vagues de révolte assez importantes avec les gilets jaunes, les gilets noirs, le comité Adama qui a fait plusieurs marches, qui s'est rassemblé avec d'autres comités, avec Gay Camara par exemple, ou d'autres. Je pense qu'on vit quand même une période assez importante où les mouvements font une sorte de. Se révoltent encore plus, mais quand même, on a quand même la réponse de l'État et du président, du Premier ministre, qui, eux, face à toutes ces révoltes, vont multiplier la présence de la police, vont multiplier les interpellations et vont exercer de la violence en fait envers celles qui vont aller manifester. Donc, on ne nous écoute pas. On veut nous faire taire, que ce soit en tuant des adelfes racisés, en les mettant en prison, justement parce que c'est une technique de nous mettre sous silence. Donc, je sais pas, j'avoue que là, je ne sais pas trop comment ça peut changer et que si un jour on en venait à nous enlever nos droits et à dire, je ne sais pas, des personnes racisées ne peuvent plus avoir accès à la santé ou accès au droit de vote, je ne sais même pas si ça va changer quelque chose. Parce que concernant, par exemple, concernant les gilets jaunes, je pense que ça, c'est avec le sujet de convergence de lutte où Assa Traoré avait appelé une convergence des luttes avec les gilets jaunes. Pour que ces deux luttes défilent ensemble par la suite. Mais force est de constater que aussi avec l'affaire Westive, moi j'ai quand même eu des personnes dans mon entourage pas concernées par les violences policières ou qui n'en sont pas conscientes, n'étant pas forcément racisées ou ne sachant pas forcément, qui commencent à dire « Ah, c'est vrai que les violences policières, ça existe. » Et vraiment, c'est nouveau en fait, on va dire pour des personnes comme ça qui n'en ont pas conscience, et c'est nouveau et qu'il faut quand même, enfin c'est la preuve quand même qu'il faut que un des leurs, si je puis dire, soit victime de ça, pour que là il y a un éveil. Mais encore, je sais même pas si les personnes qui vont aller manifester pour Steve ou qui sont proches vont finalement aller faire le lien avec aussi les violences policières et tout le racisme systémique qui en découle, alors que c'est quand même là le problème. Donc
Mais c'est en fait, j'ai l'impression que cette convergence des luttes-là, l'étincelle, elle doit prendre par une humanisation en fait des discriminations. Sauf que les personnes racisées, en fait, elles sont déshumanisées. Steve a été humanisé. Certes, c'était un slogan, mais il y avait la photo de ce jeune homme-là, sa vie, une biographie, etc. Adama Traoré. Il a fallu la biographie sortie par sa sœur
il y a trois ans.
Il y a ce côté. Donc, du coup, en fait, vu qu'on marche pas mal en tant que personne sociale, en tant qu'animaux sociaux, on va dire, on marche par l'émoi, par l'émotion, et ben nous, on nous enlève ce droit-là. Du coup, on ne converge pas vers nos luttes à nous. Enfin, c'est cette impression que là, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Miguel.
J'allais dire, et puis même concernant Steve, dès que cette affaire-là a pris. Tout de suite, il y a eu les grands médias qui en ont parlé, il y a eu des reportages, il y a eu des articles. Et je pense que c'est quand même important de s'accentuer quand même que, comme tu dis, les personnes racisées, par exemple, ne sont pas humanisées, parce qu'on vit dans une société, dans un monde quand même où le spectre de la normalité est d'être une personne blanche, cis, hétérosexuelle. Et dès qu'on ne rentre plus dans ce spectre-là, on est genre éparpillé autour. Et que concernant par exemple le combat Adama ou d'autres combats de familles qui ont eu des proches qui ont été victimes de violences policières, ces personnes-là ont dû se battre elles-mêmes dès le lendemain du meurtre, de l'assassinat de leur proches. Donc ces personnes-là ont dû prendre de leur temps, de leur énergie, ont dû mettre leur vie de côté pour aller militer en fait et pour demander la paix. Pour justice et paix vis-à-vis de ce qui s'est passé, alors que, on va dire, Steve n'en a pas eu besoin, parce que tout de suite, les médias se sont accaparés l'affaire, et bien évidemment, il faut justice et paix pour cette personne-là aussi, mais ça prouve quand même qu'au niveau des humanisations, nous, en tant que personnes racisées, on est obligés de on n'est pas sur la même échelle d'égalité, et que nous, on doit se battre par nous-mêmes, parce qu'on est seul, et qu'on va recevoir aucun soutien de la presse ou des grands médias, si ce n'est des médias indépendants hein, comme Mediapart ou de journaliste.
Voir un retour de bâton.
Oui. Donc à partir de ce
de la justice, des médias.
Oui, parce que voilà, l'affaire Adama, c'était il y a 3 ans. Gay Camara, c'était il y a 2 ans, je crois. Enfin, c'était pas le lendemain. Il n'y a pas eu une couverture médiatique énorme comme il y a eu pour Steve. Et je pense que là, ça pose aussi. Voilà, ça pose la problématique de la déshumanisation et du fait qu'on doit en faire plus pour se faire entendre, encore plus pour se faire entendre. Mais qu'est-ce que ça va donner, en fait? Donc.
Ouais, et par rapport à la convergence des luttes, ce qui a été très beau avec le combat Adama, c'est qu'ils n'ont pas dit on rejoint les Gilets jaunes pour le soutenir, c'est qu'ils ont dit on est les Gilets jaunes depuis 20 ans, en fait. C'est qu'eux, ils sont Gilets jaunes, les personnes des quartiers populaires racisées sont beaucoup plus ostracisées, c'est que on a un accès difficile, encore plus difficile à l'emploi, aux prêts, etc., etc. Et j'ai trouvé très beau qu'ils disent qu'en fait eux aussi souffraient des souffrances économiques. Et il y avait même Guy Camara pendant la conférence de presse après la troisième marche Adama qui dit qu'au début lui là aussi il avait un phénomène de retrait en disant en fait les Gilets jaunes c'est des fachos, je veux pas être avec eux, etc., je veux pas être affilié à eux. Et la chose, c'était pas tant de converger, mais c'est de réaffirmer qui étaient les victimes, qui n'étaient pas là en fait dans tout ce qu'on parlait, quand on parlait des victimes, etc., quand on parle de personnes oppressées, il faut toujours se demander qui n'était pas là. Et en fait, il y avait majoritairement des personnes blanches, certes, mais qui souffraient d'oppression sociale. Et le comité Adama a dit, mais en fait, nous, on est là depuis le début. Et vous ne parlez pas de nous. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup plus le terme intersectionnalité. C'est que ce n'est pas dans une addition des oppressions, c'est pas dans une juste c'est quoi le sexisme, c'est vraiment comment les choses s'opèrent à un point de vue très précis. En fait, comment c'est quoi le. C'est que tout est intriqué en fait, le rapport à la police, la pauvreté, le fait qu'on n'a pas accès à l'emploi et que en fait les seules manières de sociabiliser c'est être en bas du bloc avec ses potes, etc., et qu'on est exclu encore beaucoup plus rapidement de l'école, etc., etc. Et sur juste par rapport au fait que tu as dit que oui, quand il s'agissait de la manifestation à la piscine, l'événement à la piscine, etc., et quand ça touchait au corps, ils ont réagi. Bah, je vais juste dire que pas du tout contre l'événement de la piscine, mais que Théo, il s'est pris une matraque dans les faits, il s'est fait violer et il s'est rien passé. Et on a quand même débattu sur.
D'où la déshumanisation.
Ouais. Est-ce qu'il n'a pas cherché un peu Théo quand même? Est-ce que parce qu'il a dû insulter les policiers? Il a insulté les policiers quand même. Et il y avait un mec de l'IGPN qui dit oui, en plus on a dit négro, bon, c'est pas très grave. Et en fait, je sais pas. Je sais pas si jamais on nous prendra pour ce qu'on est.
Moi, j'avais une dernière question. Donc, tu as évoqué aussi l'intersectionnalité. Je me disais, dans nos luttes en tant que personnes minorisées, pas forcément donc, les personnes blanches contre les personnes racisées, nous, déjà, comment converger du validisme à l'homophobie, à la lesbophobie, à la queerphobie en général. En fait, je me demandais... Est-ce qu'on a les moyens de mettre en place une sorte de réflexion autour de ces intersectionnalités-là? Est-ce qu'on pourrait justement converger, mais déjà commencer par la pédagogie, mais entre personnes minorisées? Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça? Ce serait quoi votre idéal pour vous, pour
mettre ça en place? Je vais commencer, parce que j'ai le micro. Moi, je pense qu'il faut toujours faire parler les personnes les plus minoritaires. Je pense que... une femme noire lesbienne qui parle de ce qu'elle vit, elle parle très bien de ce qu'elle vit en fait. Et elle parle autant de c'est quoi les LGBT-phobies, c'est quoi le sexisme, c'est quoi. Et elle m'aide aussi en fait. Qu'à travers sa parole, elle m'aide dans mon combat à moi aussi. C'est qu'il faut toujours se demander déjà qui n'est pas là et faire parler les personnes les plus minoritaires parce que c'est là où tout se joue, où toutes les logiques de fonctionnement des oppressions qu'on vit, elles sont concentrées. Je pense que moi qui parle de ma vie de noir, etc., en France, c'est moins fort que Assa Traoré qui parle de c'est quoi la vie de son frère, en fait. Parce que moi, j'ai grandi dans des milieux très bourgeois et le pire que j'ai vécu, c'était des « tu parles bien ». tu vois, c'est ce qui est horrible, hein, mais c'est pas du... Moi, je me suis fait contrôler deux fois dans ma vie et c'était une fois dans un quartier populaire, en fait. Mon petit frère, il s'est fait contrôler plus que moi, c'est parce qu'il a un style, je mets des gros guillemets, mais street, tu vois. Et c'est pour ça, c'est qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce quartier ? Et voilà, c'est toujours plus fort de faire parler les personnes les plus minoritaires et ça met en exergue beaucoup plus de choses, en fait. C'est que quand on fait parler, bien sûr, ça, on va pas faire parler de la personne qui a toutes les oppressions et c'est débile, mais en fait, démultiplier les discours et faire parler les personnes. Par exemple, je vais faire une pub, mais il y a une série sur Netflix qui s'appelle Special, et c'est il est gay et handicapé, en situation de handicap. Et c'est super fort, en fait, ce qu'il dit sur c'est quoi être en situation de handicap, c'est quoi le validisme, et c'est quoi le validisme, en fait, dans les communautés queer, où surtout, il habite à Los Angeles, donc il y a vraiment un truc de corps, par rapport à la... Bref. Et en fait, c'est toujours quand on fait parler les personnes les plus minoritaires que je trouve qu'il y a quelque chose qui sorte. Voilà.
Moi, je pense c'est grave possible de travailler tous ensemble en minorité, enfin, entre minorisés. Ça dépend pour quel sujet. Encore, moi par exemple, dans le collectif Déraciné, l'été, en juin, on a fait notre deuxième édition de notre festival queer racisé et on l'a fait en partenariat avec un café et salon de tatouage qui s'appelle le Sale Gosse, qui est tenu par deux meufs lesbiennes blanches, un couple de lesbiennes blanches. Et en fait, Elle voulait soutenir notre collectif et notre festival. Elles nous ont accueillis gratuitement. Et nous, on a pu faire les trois festivals dans leur local, gratuitement. Et là, il y a eu une espèce d'entraide, d'aide. On a collaboré ensemble, on a partagé. On peut appeler ça une convergence de lutte aussi. Et ça, c'est par exemple un exemple concret. Elles étaient blanches et queer. Nous, on était racisés et queer. Elles avaient un intérêt de travailler avec nous, on avait un intérêt de prendre leur local gratuitement, et on l'a fait. Même exemple, par exemple, avec la piscine, c'était majoritairement des meufs musulmanes voilées, racisées, et d'autres personnes se sont reconnues dans leur lutte. Et il y a plein d'autres exemples qui se font comme ça, où en fait, il y a des personnes qui travaillent ensemble, parce qu'en fait... nous, on veut juste avoir ce but-là, etc. Et en fait, il y a des buts en commun et c'est grave possible de travailler ensemble. Des fois, c'est pas possible et c'est OK. Enfin, moi, je pense que c'est aussi OK que chacun travaille dans son coin. Nous, par exemple, encore une fois, avec Déraciné, la majorité du temps, on travaille solo, on fait nos événements solo. Si on a de l'aide financière ou en termes de logistique par des personnes, on la prend avec le bras ouvert. Et des fois, on n'a pas ça et on essaye de se démerder avec les moyens qu'on a. Donc, en fait, je pense que c'est grave possible entre minorisés. Et dans ces minorisés-là, il y a toujours des blancs, il y a toujours des privilégiés dans les minorités. Et il y a toujours un moyen de travailler ensemble. Mais je pense qu'il faut juste être clair sur c'est quoi la dynamique. Nous, par exemple, encore une fois, par rapport au festival, c'était très clair que le lieu, il nous a été prêté, mais on est libre de faire ce qu'on veut dans le lieu. Voilà. Elle avait deux règles de, genre, je sais pas d'alcool, par exemple. Et du coup, nous, on respectait ces règles-là parce que quand même, en fait, c'est des êtres humains qui nous donnent littéralement leur lieu de nourriture, parce qu'en fait, ils travaillent là, gratuitement. Et du coup, je trouve que c'est la moindre des choses de respecter l'espace et les règles qui ont été posées dès le début. Il y a eu un accord, c'est un travail en commun qui a été fait. Et tant qu'il y a un respect mutuel... Il y a un projet beau qui naît en dehors de ça. Et du coup, je pense que c'est grave possible de tous travailler ensemble sur certains sujets et aller au-delà. Après, des fois, ce n'est pas possible et c'est aussi OK.
Le plus important a été dit, mais je vais répéter, je pense que c'est important de travailler ensemble, de se donner du soutien, de se donner de la force. Surtout que je pense que dans même certaines luttes qui peuvent être différentes, on peut avoir quand même des ennemis communs. Et que c'est en se rassemblant qu'on pourrait possiblement, dans l'idéal des choses, le renverser. Je pense que oui, c'est important.
Est-ce que vous avez des questions ? On va essayer d'être un peu rapide.
Ça va être une question un peu vague, mais pour vous, c'est quoi l'avenir du militantisme, ou en tout cas de votre militantisme? Comment est-ce que vous organisez par rapport à tout ce que vous avez dit là, la situation telle qu'elle est maintenant? Enfin, je sais que personnellement, j'ai été militante, je ne sais pas si je peux dire que je le suis toujours. Et y a beaucoup de choses qui m'ont déçue dans le militantisme, mais pas tant dans l'intrinsèque au militantisme, mais plus le fait qu'on a toujours le même travail à faire et c'est hyper répétitif et ça prend beaucoup d'énergie et c'est difficile de garder sa santé mentale là-dedans, en fait. Et d'un autre côté, il y a aussi ce côté, on ne sait pas si ce qu'on fait, ça a vraiment un impact. Est-ce que c'est concret ce qu'on fait? C'est difficile de rester connecté à ça. Moi, personnellement, je me posais souvent la question de est-ce que ma famille se sentirait concernée de ce que je fais? Alors que, a priori, ça touche au racisme et qu'elle vit de plein fouet. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est complètement décalé de leur réalité, quoi. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles... Et puis, il y a aussi le fait que dans les milieux décoloniaux, c'est souvent très académique et ce n'est pas forcément adapté pour la précarité dans laquelle j'étais. Et ça fait partie, tout ça, des choses qui m'ont un peu éloignée du milieu militant. Et du coup, ouais.
Moi, j'avoue, je suis d'accord avec toi, en fait... J'en ai marre du milieu militant. Ça fait un moment que je réfléchis. Je me dis, par exemple, j'ai passé un sale hiver. J'étais triste et seule dans mon lit. Il n'y avait personne de mes copains sur Instagram qui prenait des nouvelles de moi, tu vois. Et c'était des personnes qui étaient là, racisées, ouais, on est féministes, on est copines, non, pour la vie. Mais en vrai, elles n'étaient pas là. Elles n'étaient pas là quand moi, j'étais seule à pleurer dans mon lit. Tu vois. Donc en vrai, je trouve que le militantisme, c'est bien mignon dans les soirées et les événements, en mode « Ah, on se comprend trop, ouais, t'as trop raison, blablabla », que du show-off. Mais en vrai, j'étais seule et j'avais pas de copains. Et du coup, moi personnellement dans ma vie, ce que j'essaye de faire, c'est juste m'entourer des gens qui me font du bien, et ça peut être des personnes blanches, m'entourer de ma famille qui est à côté de la plaque sur les questions queer, m'entourer des gens qui m'aiment vraiment et qui me veulent du bien. Et c'est pas grave, en fait, si les personnes-là comprennent pas certaines choses, j'essaie de leur expliquer des fois quand j'ai envie et des fois non. Et voilà, l'avenir du militantisme, ça sera pas trop avec moi. Moi, enfin, j'essayerai. Après, moi, je tiens beaucoup au collectif où je suis, surtout qu'on est à Lyon et qu'en fait, on n'est pas à Paris. Du coup, c'est un peu décentré et on a vraiment une place importante et on fait vraiment des événements comme nous, on le veut, des petits événements de coloriage pour les personnes racisées, et on est là à dessiner des trucs et on boit du thé et c'est chill et c'est tranquille et on n'est pas trop dans le show-off et chacun fait son truc, et c'est des événements qui nous fait du bien sans être grandiose, et c'est, je trouve, c'est dans les petits trucs ce qui fait du bien.
Ouais, c'est...
Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, grave, enfin, je trouve que c'est hyper important ce que tu as dit, de s'éloigner en fait un peu du performatif, de ce truc genre il faut que ce soit rentable, il faut que nanan, et juste au final si ça nous fait nous sentir bien dans un environnement qui est pas forcément pour nous, c'est cool.
Alors ce matin il y avait une table ronde sur militer sans se noyer, et c'était super intéressant, super enrichissant. Il y a, je pense, il y a eu beaucoup de thématiques qui auraient pu répondre à ta question, surtout sur la santé mentale. Parce que le militantisme, je pense, moi j'ai un peu du mal à me considérer comme militant, parce que, je sais pas, est-ce que je suis légitime de me considérer comme, parce que je fais pas partie d'un collectif, j'ai jamais monté quoi que ce soit, j'ai été là à certains événements en allié, mais j'ai jamais forcément été actif. Donc déjà, c'est une question que je me pose. En plus de ça, ça reste un poids sur les épaules, dans le sens où, en parlant d'événements, que le militantisme, c'est quand même dur à vivre, mentalement parlant. Dans le sens où, quand je peux me retrouver à des événements comme celui-là, quand je me retrouve avec des amis ou des amis qui sont militants ou militantes, sans forcément parler de ces sujets-là, je suis bien parce que je suis dans un environnement safe, tout ça. Sauf qu'après, je vais me retrouver seul. Et là, ça va être plus compliqué. Là où personnellement je puise ma force, c'est où je me dis c'est légitime ce que je fais et ça sert. Ça a été ces derniers jours quand j'ai commencé à parler d'adoption sur Twitter, même s'il y a eu des retours assez mouvementés, mais on va dire que les retours mouvementés dans le sens positif ont fait que quand même ça a fait parler, donc ça prouvait que ça dérangeait certaines personnes. Mais et là où voilà où j'ai reçu des messages de personnes adoptées, qu'elles soient concernées, ou ce qui m'a encore plus touché de la part de parents qui ont adopté ou de parents qui veulent adopter et qui sont venus me voir et qui m'ont dit bah voilà on a lu tes tweets, on a écouté le podcast et voilà ça nous a beaucoup appris et ça nous intéresse vraiment comme sujet et on veut en savoir plus en fait. Et sans rentrer dans l'injonction de la pédagogie, moi c'est vraiment par des messages comme ça, par des encouragements comme cela, que moi je puise ma force, où je me dis c'est important ce que je fais. Après encore c'est quand même assez compliqué parce que des fois j'ai pas le courage de répondre à ces messages là et je me dis mais vu que j'ai l'impression enfin je sais que je suis pas le seul à être une personne adoptée, mais disons que quand des personnes viennent te voir comme ça et que je sais pas forcément vers qui les rediriger, je me dis si je leur réponds pas elles vont rester sans réponse et là encore y a un peu une pression, je me dis que c'est mon devoir de parler de ce sujet là je sais pas, enfin sans être forcément porte-parole parce que voilà, il y a des personnes comme Amandine Gay qui est adoptée, qui va écrire un essai sur ce sujet-là, qui va sortir un film. Et c'est génial parce que là, ça va pouvoir donner des ressources. Et là, je vais pouvoir dire finalement à ces personnes-là, allez voir ce film, allez lire ce livre. Mais que pour l'instant, bah, c'est un peu moi face à mon ordinateur et à devoir un peu faire avec tout ça. Donc ça veut dire que oui, le militantisme, c'est difficile si je me considère comme une personne militante. Que concernant les parents et l'entourage et le décalage que ça peut avoir. Enfin voilà, personnellement, ces derniers temps, il s'est passé des choses pas forcément chouettes avec mes parents ou mon entourage. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage parce que mes parents sont blancs, vu que j'ai été adopté dans le cadre d'une adoption transraciale. Et que dans ce cas-là, voilà, avoir des parents blancs, ça veut dire des parents ou des personnes qui n'ont pas forcément conscience du racisme ou de l'homophobie. Et en plus, qui, quand je vais leur en parler, vont me faire les gros yeux en mode « Tu vis le racisme, mais tous les jours ?» Ou « Mais pas à Cisson-Sévigné, ça n'existe pas le racisme à Cisson-Sévigné. » Et là, je commence à dire « Bah si, je le vis, hein, c'était genre les yeux grands ouverts, la bouche bée. » Et voilà, c'est assez compliqué, surtout voilà, quand la conversation se poursuit et qu'en fait, j'ai affaire quand même à des... Bah, oui, à une... à mon père par exemple qui va toujours voilà remettre en question mon vécu, va me dire bah contexte en fait genre pourquoi t'as vécu ça tout le temps, et voilà c'est quand même vachement blessant parce que ça vient quand même de personnes qui sont censées me comprendre le plus ou me croire en fait, donc dans ce cadre là c'est un peu plus complexe, donc oui je pense que voilà le militantisme c'est difficile, qu'il faut prendre soin de sa santé mentale en s'entourant de personnes, et là je te rejoins vraiment parce que en entendant de personnes vraiment qu'elles soient blanches ou pas, parce que bah, j'ai des amis blancs aussi, ou des amis blanches, je ne suis pas contre, et que voilà, et qu'avec ces personnes-là, je me sentir vraiment très très bien, et des personnes qui m'écoutent, et voilà, je pense que l'intérêt, c'est d'entrer dans un environnement sain, avec qui tu te sens bien, sans forcément aborder ces thématiques, parce que c'était, je ne sais plus qui en parlait ce matin, si c'était Vénus ou Paya ou Louis, c'était Louis, qui parlait du fait qu'il avait des amis pas forcément militants ou militantes, mais qu'il aimait bien passer des moments avec ces personnes-là, parce que ça lui donnait l'impression de souffler, et moi j'aime bien aussi passer des moments avec des personnes qui sont pas dans ces cercles là parce que je sais que quand je vais y aller bah ces sujets ne seront pas abordés, je pourrais vraiment me reposer en fait sans vivre en fait ce militantisme H24 qui peut être assez épuisant et pesant niveau santé mentale.
Moi, quand j'ai entendu militant, je me suis dit Miguel, militant, pas du tout, parce que je me vis plus comme sur le plan, on va dire, militant, etc., toutes les questions d'oppression comme journaliste qu'autre chose. Et sur le rapport à la famille, mes parents, c'est des macronistes, anciennement sarkozistes, qui se pensent grave de gauche, parce que maintenant, ils sont au centre, selon eux. Donc, comment vous dire que dès qu'on parle gilet jaune, ça fuse. On s'est rejoint, par contre, sur le militantisme, sur le Rwanda, parce que je suis rwandais. Et il y a un génocide en 94 contre les Tutsis. Il faut savoir que la France a participé, a armé les génocidaires, a été ultra proche de l'ancien régime génocidaire, et que même pendant le génocide, le début du génocide, alors que c'était une opération dite humanitaire, le mot d'ordre était remettre en place le gouvernement génocidaire. C'est qu'ils ont aidé à faire sortir des génocidaires du territoire, qu'il y a énormément de génocidaires en France, et que les archives sont totalement sous-cellées et qu'il n'y a aucun accès. Et c'est seul sur ce point-là qu'on a pu se rejoindre, en fait. Que Jack César les a plu, que du fait que, en fait, déjà, je ne suis pas un... Je ne suis pas dans les critères de masculinité selon eux, donc ils se disaient « Ah putain, l'Occident l'a changé. » Et le fait, en fait qu'on se rejoigne sur ce point-là, ça a fait un lien. Sur les amis, ça a été super dur pendant un moment, parce que moi, j'avais presque que des amis blancs. Et quand j'ai vraiment commencé à être militant et aller au Bondi Blog, ça a été vraiment dur. L'écart, en fait, de rapport au monde est tellement fou. C'est qu'il était fou avant, mais je ne m'en rendais pas forcément compte, et que maintenant je m'en rends compte, et j'ai pété un câble dur, ça a été vraiment dur, donc j'adorais aller au Bondi Blog, j'adorais dans des trucs militants, et même jusqu'à pas très longtemps en fait, donc je sortais de la bibliothèque, bref, j'avais pas de vie, je voyais pas trop mes potes, parce que c'était assez dur, mais là ça va mieux parce qu'ils ont compris que soit ils sont de gauche, soit on n'est plus potes. et voilà. Et prenez soin de vous, parce que c'est fatigant, les gens de droite.
Alors, du coup, je pense qu'on arrive à la fin, à moins que vous ayez d'autres choses, des paroles réconfortantes. Bon, bah, moi, je vais terminer, je vais conclure. Oui, dis-moi, dis-nous.
Juste, je suis content quand on voit des mecs dire de la merde sur CNews, parce que je pense qu'ils sont juste dans la réaction, ouais. que c'est parce qu'on parle et qu'on crie qu'ils sont là, en fait. Et je suis pas du tout surpris, en fait, quand Macron dit de la merde, en fait. C'est normal que Macron dise de la merde, c'est surprenant en fait qu'on ait un discours logique et que les actions viennent par la suite en fait. Et que quand on crée du conflit et quand on n'est pas unanime, quand on ne fait pas de l'unanimité, en fait c'est normal. Et que se faire insulter, bah, en fait je suis très bien. Si je me fais insulter par des gens de droite, en fait ça me va très bien. Et qu'il faut toujours être content quand des merdes nous insultent.
Oui, juste pour rebondir sur CNews, je pense que voilà, on arrive quand même... Enfin, quand on voit des personnes qui croient au racisme anti-blanc qui vont faire les plateaux, quand on voit des sites d'extrême droite gérés par des personnes de génération identitaire qui vont faire des articles assez fructueux sur toi, je pense que bon, d'un côté c'est triste, hein, ça fait du mal, et, ouais. Mais que comme on voit toujours le bon côté, c'est que ça veut quand même dire qu'on leur fait peur. Et je pense que maintenant vraiment les dominants et les dominantes se sentent menacés, parce qu'on arrive à un moment où on est légitime de parler et on le sait en fait. Et donc il y a des collectifs qui se montent, il y a des actions qui se font. Et je pense que si c'est difficile des fois de militer, de dire est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que je vais voir le bout, et je pense qu'on n'en verra pas le bout et qu'on mourra avant de savoir si ça va vraiment avancer. Mais comme se disait ce matin, le militantisme c'est quand même historique et qu'on a quand même avancé depuis. Je pense que tout ce qu'on fait, les personnes ici dans la salle ou qui ont intervenu ce matin, enfin, toutes les personnes qui font des choses en fait pour des luttes, bah que voilà, ça donne quelque chose, parce que voilà, maintenant les dominants et les dominantes tremblent, pleurent, ont leur ego au sol et nous servent leurs meilleures larmes. Donc je pense que c'est quand même la meilleure chose et la meilleure preuve que ce qu'on fait c'est important quand même, et que ça va changer. Je pense que vraiment être optimiste, mais je pense que ça change et qu'il ne faut pas lâcher. Donc force à toutes ces... Force à toutes ces personnes-là qui font des actions, qui font changer les choses, ou qui genre vivent leur militantisme, plus comme a été dit ce matin, juste en étant une minorité, qui vivent au jour le jour. Et là vraiment, que ce soit des personnes queer, des personnes racisées, des personnes non valides, toutes ces personnes-là qui peut-être militent malgré elles, mais juste par le fait d'exister. Et je pense que ça fait toujours du bien d'avoir des petites paroles réconfortantes, faire un peu de care, parce que dans ce monde un peu violent ces derniers temps, je pense qu'il faut que chaque personne se rappelle qu'elle est légitime de ce qu'elle ressent, que sa parole est importante, qu'elle est écoutée, que même si à l'ordre actuel, moi je sais que je dis ça vis-à-vis de mon exemple personnel en tant que queer racisé, et qu'au début, vu que je voyais que mon côté queer quand je me suis vraiment assumé en tant que tel, et que je suis arrivé dans le milieu, comme ce terme est beaucoup utilisé, surtout ici à Paris, le milieu gay ou le hors-milieu, et que je me suis rendu compte qu'en fait c'était une communauté totalement raciste, là je me suis retrouvé au pied du mur, et je me suis dit mais bah, vers qui je me tourne, en fait, parce que si même dans ma communauté queer, je ne me sens pas accueilli, où je vais, et voilà, j'ai trouvé bah, des personnes... Bah, cette année, j'ai trouvé des personnes qui m'ont vraiment accueilli pour ce que je suis. Certaines sont dans la salle. Est-ce qu'on fait des remerciements? Peut-être. Voilà, parce que ouais, certaines sont dans la salle, ils vont se reconnaître, mais des personnes qui m'ont vraiment accepté comme je suis, par le fait que je sois queer, racisé, et en plus adopté, et c'est, bah, ça représente tout, en fait. Donc vraiment, voilà, toutes les personnes qui sont minoritaires, bah, leur dire qu'elles sont valides, qu'elles ont de la valeur, que leur existence est importante et qu'elles ne se taisent pas, et surtout qu'on est là et qu'on n'est pas seul à porter des luttes, et que si on en a marre un moment, on peut faire une pause et il y aura toujours des gens pour prendre le relais, mais que personne n'est seul.
Bah, peut-être faire attention les uns et les autres. Je pense on n'est pas tous... On n'est pas tous au taquet, on ne connaît pas tous tout. Du coup, c'est OK si on fait des petites bêtises. Et ici, on est bienveillant et on est là. Et on est là à vouloir apprendre et comprendre. Personne n'est parfait. Et du coup, ce qui compte, c'est qu'en fait, on essaye et qu'on ne soit pas... Surtout, je trouve, entre les personnes queer racisées, enfin, c'est vraiment la guerre et c'est nul, quoi. Enfin, pourquoi c'est nul, personne n'a le temps pour ça, et il vaut mieux faire attention les uns les autres, essayer d'être le maximum doux et attentif, et voilà, quoi.
Merci. Et en fait, ce qui ressort de cet échange, pour moi, c'est que même si on n'est pas inscrit dans un collectif, même si on est dans un collectif, on part de vécus qui sont individuels, on part de récits qui nous sont propres, souvent dit à la première personne. Et en fait, c'est nos vécus qui nous permettent de rayonner dans un rayon défini, large ou pas, selon les connaissances, selon les cercles qu'on intègre dans notre petit cercle. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait la convergence. Paradoxalement, c'est le fait d'être individuellement porté pour la convergence, se dire qu'à un moment donné, mon individualité, elle va s'associer à d'autres personnes pour le bien commun. Et ben c'est ça, en fait, qui on n'est pas forcément dans des cases. On n'est plus tenu de respecter l'agenda de l'assemblée de tel collectif parce que en fait on peut pas se réunir avec un tel parce que ils ont eu plus de subventions. Enfin, j'extrapole, mais en tant qu'individu, en tant que personne, et ben on a cette responsabilité, ce devoir. Et ce droit aussi, du coup, de converger sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Et en fait, notre génération, elle est au fait de tellement de choses qu'on peut se dire qu'on a aussi cette chance-là d'aller vers des sujets qui nous interpellent vraiment. Et ces sujets vont résonner aussi avec d'autres, justement par rapport à l'intersectionnalité. Donc on est pluriel et nos luttes sont plurielles. Et c'est le fait qu'on soit pluriel qui... à un moment ou à un autre, va faire qu'on va converger, à mon humble avis. C'est comme ça que je le ressens, voilà, c'est ce partage-là, c'est extimité, et voilà. Et j'aimerais bah, vous remercier. Oui, vas-y.
Et vraiment, je pense que c'est, enfin, vu qu'on arrive, enfin, pas au terme de cette journée, vu qu'il y a encore plein de choses là qui vont se passer, mais je pense que c'est vraiment important de vous dire merci à toi et
merci
Anthony,
à vous.
Et pour vraiment tout ce que vous faites, pour les personnes que vous mettez en valeur. Enfin, moi, c'est vraiment la première fois que je parle d'adoption et vous avez vraiment changé ma vie. Donc vraiment, merci pour ça. Et je pense que c'est le cas pour... I'm gonna cry. Que c'est le cas pour vraiment... que c'est le cas pour énormément de personnes qui ont... Enfin, merci pour votre écoute. Merci de nous avoir donné un espace où on se sentait safe, où vous avez relayé, en fait, c'est tout ce qu'on demande. Et donc voilà, c'est vraiment... enfin, je pense que c'est vraiment aussi grâce à des personnes comme vous qui prenez l'espace... qui ne nous est pas donné de base et qu'on va y arriver ensemble. Et je pense que rien que pour ça, on peut vous applaudir pour tout ce que vous faites. Et pour,
merci à tout le monde. Merci énormément. Et je crois que je vais chialer, donc on va aller regarder les drag queens. Là. On va twerker, on va bouncer enfin. Là. J'en peux plus. Merci à vous.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.